La femtech.
Ouais.
Bah, ça m'aide à suivre mon cycle, savoir quand est-ce que je vais avoir mes règles, la période prémenstruelle, etc. Et anticiper aussi les humeurs.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans un nouvel épisode de Zoom Zoom Zen. Chaque après-midi, 2 heures pour décrypter notre époque à travers ses mots, ses expressions. Et aujourd'hui, un mot qui nous a évidemment été suggéré par notre rédacteur en chef déconstruit, spatio-féministe, limite misandre, Cyril Lacarrière. Des mois, presque des années qu'il insiste pour qu'on se penche sur la femtech, quand le progrès technologique se soucie enfin des problèmes féminins. Tu te rends compte, Manon, disait-il accédé à la Marianoche, que la tech est portée par des mecs si indifférents aux problèmes des femmes qu'il a fallu attendre 2012 pour qu'on invente une appli pour suivre son cycle menstruel. Et devine qui l'a inventé ?
Léna Mafouf.
Mais non, Manon, Léna Mafouf n'a pas tout inventé. Mais c'est une femme qui l'a inventé. Il faut absolument qu'on fasse une émission sur la Femtech pour dire que les choses changent, mais pas assez vite. Manon, de son côté, vous vous en doutez, n'en avait rien à cirer de cette histoire de Femtech.
Évidemment.
Oh, Cyril, ça va, lâche-nous un peu la grappe avec tes bonnes femmes, soupirait-elle en retapant une 12e fois dans le pot de rillettes sans âge qui traîne depuis 1000 ans sur la table commune de l'Open Space et dont on a décidé qu'elles étaient encore comestibles juste parce que la date de péremption est effacée. Marre de tes sujets wokistes, si on refaisait plutôt une émission sur le Vendée Globe ou Goldorak, ça c'était concernant, tranchait Manon en se resservant un troisième verre de Beaujolais Nouveau parce que c'était jeudi dernier et qu'il était 11h03. Oui, je commençais à me dire que quelque chose ne tournait pas rond. Que le monde était sans dessus dessous, d'autant que Quentin était là aussi à son poste de travail. Pire, il avait l'air d'être en train de travailler, ce qui, à 11h03, était rigoureusement impossible, tout le monde le sait. Je me suis alors levé parce que j'avais entendu du bruit dans l'espace où on fait le café. C'est là que j'ai vu Benjamin Tranier en train de rouler une pelle à Bruno Solo. Alors j'ai compris, j'étais en train de rêver. Quand je me suis réveillé, Solo et Tranier avaient disparu, Quentin aussi, bien sûr. Manon et Alicia, notre réalisatrice, souriaient en regardant notre thème du jour écrit au tableau, alors que Cyril, lui, soupirait dans sa barbe. Femtech, qu'est-ce que c'est que cette connerie ? Alors qu'est-ce que la femtech ? Pourquoi la santé des femmes a-t-elle si longtemps été le parent pauvre de la tech ? Que représente ce nouveau marché ? Y a-t-il enfin des hommes qui s'intéressent aux problèmes des femmes ? Ou bien la femtech est-elle encore essentiellement féminine ? Zoom Zoom Zen, c'est parti.
France Inter. Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël.
Vous êtes une ordure, Mathieu Noël.
Oh, vous en êtes une autre, Cyril, vous en êtes une autre. Juliette Moreau, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Inter. Juliette, vous êtes la créatrice de My S Life, une plateforme de santé intime et sexuelle pour les femmes, et vous êtes aussi présidente de Femtech France. On va tout comprendre avec vous de ce mouvement, de ce concept. Juste le temps de vous présenter mes petits camarades, à commencer par celle qui a donc, vous l'avez compris, beaucoup milité pour qu'on fasse cette émission. Manon Mariani, vous avez été la première ici à nous parler des applications pour suivre son cycle menstruel, notamment l'appli Flow, vous aviez réussi à imposer comme thème de chronique, alors que Cyril voulait que vous fassiez Vivino, une appli vachement plus utile selon lui. Heureusement, vous l'aimez aussi, vous remarquez, vous la connaissez aussi. Et vous finissez toujours par avoir gain de cause, puisqu'aujourd'hui, on zoome donc sur la Femtech. Et si on veut en savoir plus, vous nous direz tout à l'heure, qui est l'autre personne à suivre ?
Une femme à la tête d'une start-up lyonnaise qui a mis au point une prothèse 3D pour aider les femmes après un cancer du sein.
Face à vous, Juliette, il a le sourire des grands jours. Je lui ai demandé pourquoi, hors antenne, il m'a dit « Enfin Mathieu, parce que non seulement je suis moi aussi dans la tech, mais que ma tasse Lou Cigalou, qui fait le bruit des cigales quand on la penche pour boire, est pensée aussi bien pour les hommes que pour les femmes. » Et oui, c'est vrai. Mais bonjour, oui. Quentin, lui.
Bonjour.
C'est vrai que c'est non-genré comme
produit. Même l'étude de marché prouve que ça s'adresse plutôt aux femmes.
Ah, plutôt aux femmes,
oui,
la
oui.
tasse Lou Cigalou.
Les mugs.
Ouais. Très bien. Ça, c'est pas un
ça
peu ça c'est pas on n'est pas un peu dans le cliché?
Oui.
Bah non.
Non, l'étude de marché.
Voilà, elle le dit quoi.
Chaque après-midi, c'est vous Quentin qui allez éprouver notre mot du jour dans la rue.
Et quel mot? Femtech, il fait presque peur et pourtant il est dans la vie des femmes que j'ai rencontrées au hasard des rues, on en parle toutes générations confondues dans ce micro-trottoir complètement à la rue.
Vers 16h30, pour ceux qui douteraient encore du fait que la tech est dominée par les hommes qui au lieu de bosser sur des applis utiles pour la moitié de l'humanité préfèrent faire n'importe quoi, le Zoom Zoom Test vous présentera les applis les plus débiles jamais créées. Il y en a quelques-unes. Juste avant 17h, les oreilles de son mari devraient encore sévèrement siffler aujourd'hui, puisque Marine Leonardi viendra nous parler Femtech. Mais d'abord, Juliette Moreau, est-ce que ce ressenti dont je parle sur le mode un peu humoristique est fondé ? Est-ce que vous avez le sentiment que les femmes ont longtemps été les grandes oubliées des avancées technologiques ?
Alors oui, en fait, je recommanderais un livre de Carole Pérez qui parle des femmes invisibles, comment le manque de données sur les femmes a invisibilisé les femmes dans le monde. Et ce qui est assez intéressant, alors Alors le constat, le premier qu'elle fait, c'est celui de l'iPhone, qui est vraiment construit pour une main plutôt grande.
Ah oui.
Voilà, plutôt masculine. Donc là, on est dans de la tech-tech. Après, si on regarde plus les thématiques de santé des femmes, on le sait, et c'est encore le cas aujourd'hui, il y a un certain nombre d'essais cliniques qui sont faits avec des ratios d'hommes, enfin, qui sont testés, les médicaments sont testés plus sur les hommes que sur les femmes.
Aujourd'hui ?
Ah oui, encore aujourd'hui, en fait, on a le cas récemment de toute une méta-analyse sur des essais cliniques sur la maladie d'Alzheimer qui touche plus les femmes que les hommes et où, en fait, les ratios d'essais cliniques montrent qu'en fait, on ne respecte pas ce ratio-là et on va plus tester le médicament sur les hommes que sur les femmes.
Ce qui est d'autant plus fou qu'il y a plus de femmes que d'hommes dans le monde.
En plus.
Au-delà. On va entrer dans le détail, mais pour planter le décor et nous expliquer comment est née la Femtech, qui de mieux placé qu'un homme blanc de presque 50 ans avec la barbe d'Hagrid dans Harry Potter ? Personne. C'est pourquoi on accueille Cyril Lacarrière, notre magicien de la généalogie lexicale, comme il aime à se définir dans son CV. En gros, ça veut dire qu'il nous explique d'où viennent les mots qu'on évoque dans cette émission.
CV.
C'est ta carte de visite, non ?
Oui, c'est ça. Oui. Un joli portrait de moi dépeint aujourd'hui, hein, Mathieu. C'est gentil, en tout cas.
Oh, magicien de la généalogie lexicale.
C'est enfin, Hagrid, Cyril. Hagrid, c'est pas le plus sexy.
Oh.
Non, mais il a décidé d'être
mais
méchant.
Mais il est très gentil, Hagrid, Cyril.
Oui. Vous savez que j'ai passé un week-end difficile, Cyril, sans rentrer dans le détail. Problème. Cyril, dites-nous, la Femtech, d'où ça sort ?
Ida Tin, entrepreneuse, chercheuse, autrice, née à Copenhague, au Danemark. En 2016, c'est elle qui invente le terme de Femtech et voilà comment elle l'a défini. À l'époque, la Femtech, c'est une technologie qui répond aux besoins des femmes. Ida Tin, elle ne fait pas qu'inventer le mot, elle a inventé une appli, la première appli pour aider les femmes à suivre leur période de règles. Cette appli, c'est Clou et elle reste une pionnière du genre. Détail amusant, la société Clou est née en 2012, donc avant que sa conceptrice n'invente la notion qui allait la définir.
Et justement, depuis cette époque, la définition de la Femtech a changé, Cyril.
Absolument, et c'est toujours Ida Tin qui le dit, je la cite. « Au début, nous pensions surtout à la santé reproductive. Aujourd'hui, je dirais que la Femtech couvre également des domaines dans lesquels les femmes sont touchées de manière très différente des hommes ou de manière non proportionnelle, comme la santé du cerveau ou des os. » Manière de dire que le champ que recouvre la Femtech s'est élargi. On aura d'ailleurs l'occasion, dans cette émission, de savoir jusqu'où il s'est élargi. Toujours est-il que ce secteur est en pleine explosion, le marché de la Femtech devrait représenter plus de 75 milliards de dollars l'année prochaine. Et quand le business est si puissant, c'est bien qu'il se passe quelque chose et que malgré ce qu'en pense Mathieu Noël et pas moi, non, ce n'est pas juste un truc de gonzesse. Et c'est ce qu'on va voir durant une heure.
Miroir magique. Une belle excuse. Merci Cyril pour cette entrée en matière. Juliette Moreau, est-ce que c'est pas un constat quand même désolant de se dire que les hommes ne se sont préoccupés que des hommes quand ils se sont lancés dans les nouvelles technologies ?
Oui, c'est un constat désolant, ça c'est certain. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on est quand même dans un secteur où, globalement, on a une majorité d'hommes. Donc, ce qu'on peut voir aujourd'hui en Femtech, et nous on le constate au sein de l'association Femtech France, c'est que 90% des entreprises Femtech, donc des startups qui innovent en santé des femmes, sont fondées ou cofondées par des femmes. Donc, on voit bien qu'après, il y a un prisme par rapport à un sujet d'intérêt et qui fait émerger. Après, l'autre spécificité de la Femtech, et c'est peut-être aussi, si on fait le reverse, c'est pas tant vers la tech qu'on est allé, mais plutôt du besoin des femmes.
Besoin,
voilà.
Oui.
C'est que majoritairement, les femtech sont créées à partir d'un besoin auquel on va essayer de trouver une réponse.
Parce que la santé des femmes est quand même très différente de celle des hommes. En quoi les deux sont différentes ?
Ah, c'est une bonne question. Alors, il y a évidemment en santé des femmes... Alors, la santé des femmes, déjà, c'est la réponse à quelque chose qui est très dans l'air du temps, qu'on appelle la médecine personnalisée. Donc, où on ne va pas donner le même traitement ou le même accompagnement ou le même soin en fonction de chaque individu, quelle que soit la pathologie. Et quoi de plus personnel que son genre ou son sexe ? Et derrière, la santé des femmes, on va avoir à la fois les spécificités très féminines, comme tout ce qui touche à la sphère gynéco, la santé reproductive, vous en parliez. Mais après, on va aussi, et vous l'évoquiez très bien, avoir des spécificités par pathologie. On a des maladies sur lesquelles, par exemple, l'asthme. Les femmes sont deux fois plus sujettes à l'asthme grave que les hommes. Et une des causes, c'est la testostérone qui protège les hommes et pas les femmes. De la même manière, on va avoir des maladies neurodégénératives comme le lupus, où, pareil, on va avoir une surreprésentation des femmes.
Zoom zoom zen. Mathieu Noël sur France Inter.
L'innovation technologique serait-elle sexiste? En tout cas, pensez avant tout pour les hommes. On zoome aujourd'hui sur la Femtech. Quand, enfin, la technologie se met au service exclusif des femmes. La présidente de Femtech France, Juliette Moreau, est notre invitée cet après-midi. Juliette, 90% des startups qui font partie de Femtech France sont gérées par des femmes. Est-ce que vous trouvez ça bien que ce sont des femmes qui entreprennent ou au contraire, vous trouvez que les hommes devraient plus investir la Femtech?
Il n'y a pas de femme ou homme quand il s'agit d'aller vers plus d'une meilleure santé pour les femmes. Et d'ailleurs, il y a des femtech qui sont créées par des hommes. Après, il faut faire attention. Alors, on est dans le domaine de la tech. Mmh. Et il y a déjà un biais énorme sur le financement des entreprises créées ou co-créées par des femmes. Et ce qu'on constate malheureusement, c'est qu'on a exactement le même biais en femtech. C'est-à-dire qu'il y a une étude récemment qui a montré que même dans la femtech, donc là, on parle vraiment de santé des femmes pour les femmes, les entreprises créées par des hommes ont plus de chances de lever de l'argent pour financer leur structure et leur innovation que les femmes. Donc c'est là où il faut être aussi attentif à ne pas répéter des biais dans un domaine où les femmes s'approprient pour le coup la tech.
Est-ce que vous pouvez nous raconter en deux mots ce que c'est Femtech France? Qu'est-ce que vous faites concrètement au quotidien?
Bien sûr, c'est une association qu'on a montée il y a 2 ans, qui est un collectif qui réunit l'ensemble des startups Femtech en France. On est, Cyril l'a dit tout à l'heure, la France est très bien placée, puisqu'on a plus de 140 Femtech qui existent en France. Nous, on en réunit plus de 85 au sein de Femtech France, et l'objectif, c'est vraiment de les aider déjà à se faire connaître, à se développer, et à trouver le nerf de la guerre, c'est-à-dire des investisseurs.
Avant d'être présidente de Femtech France, vous avez lancé My S-Life. De quoi s'agit-il?
Donc, My S-Life, c'est une plateforme qui accompagne les femmes sur toutes leurs questions de santé intime et sexuelle. On est référencé sur Mon Espace Santé. Donc l'idée, c'est d'être vraiment très, très sûre et en même temps très légitime d'un point de vue médical. Et c'est d'être un peu la copine gynéco qu'on n'a pas toutes.
Ah oui, qu'on peut appeler comme ça n'importe
quand. Exactement.
Manon?
Est-ce qu'on peut donner, parce qu'on parle des applications de règles, mais est-ce que vous pouvez citer d'autres exemples en fait, de Femtech qu'on ne connaît pas forcément?
Bien sûr. On a sur la Femtech. Alors, on peut parler dans le champ des applications digitales. On a aussi des applications qui vont accompagner sur la dépression, par exemple, qui est une pathologie plus féminine que masculine. On va avoir des applications qui accompagnent aussi sur tout ce qui est troubles alimentaires. Et puis après, vous allez en parler tout à l'heure, donc je ne vais pas citer cela, mais on a aussi tout un champ qui va aller plus vers l'IA pour essayer de mieux diagnostiquer, on parlait d'endométriose tout à l'heure, donc mieux diagnostiquer des maladies pelviennes ou même d'aider à des femmes qui ont, d'améliorer des traitements sur par exemple des problèmes de fertilité.
Est-ce que le plaisir féminin, je pense au vibromasseur, je pense au womanizer par exemple, fait partie de la femtech ou c'est autre chose?
Ça c'est ce qu'on appelle, c'est le champ de la sextech. On est sur...
On
fera une autre émission exactement, qui serait très, très intéressante probablement. Le champ de la sextech, c'est un champ qui est beaucoup plus large, parce que là on est vraiment sur le plaisir, seul, à deux ou plus. Néanmoins, sur la partie santé sexuelle, typiquement, nous, c'est ce qu'on peut accompagner aussi sur MySLife, parce qu'il peut y avoir des pathologies qui ont un impact soit sur la santé sexuelle, soit sur la santé reproductive.
On est quand même, je reprends ce que disait Cyril tout à l'heure, on n'est pas du tout dans le caritatif. Hein. 75 milliards de dollars l'année prochaine, potentiel marché de la Femtech, ça devrait quand même intéresser des gens.
C'est bien ce qui m'attriste, alors pas tant les gens, parce que si j'ai bien compris, c'est un sujet qui commence à être de plus en plus connu et sur lequel il y a un joli marché. En revanche, c'est vrai qu'en France et en Europe plus spécifiquement, on commence à être un petit peu en retard, surtout en termes de financement. Parce que, donc vous évoquiez ce chiffre pour l'an prochain, mais c'est un marché qu'on estime à plus de 130 milliards de dollars pour 2030, donc c'est-à-dire demain, et sur lequel moins on investit, plus on a le risque déjà de voir aussi des innovations qui ne sont pas françaises venir s'installer chez nous avec toute la problématique de la gestion des données. Et puis aussi, on perd aussi une opportunité de faire émerger des vrais changements dans la vie des femmes, en fait.
Il y a peut-être un manque de volonté politique aussi, les politiques ne s'intéressent pas beaucoup à ce secteur-là encore.
C'est une thématique où on a beaucoup sensibilisé les politiques. Alors après, on est dans un environnement où c'est...
Oui, là en ce moment, c'est difficile de sensibiliser qui que ce soit,
voilà. En revanche, c'est un domaine sur lequel, oui, clairement, il y a aussi un rôle que doit pouvoir jouer l'État pour promouvoir ce type de recherche et promouvoir aussi ce type de start-up.
Et vous, qu'est-ce que vous en savez de cette Femtech et de celles qui la font? Quentin a sauté dans ses Moonboots pour venir vous le demander.
Smartphone en main, appli Femtech à l'appui et Moonboots au pied donc. Je tombe sur ces deux copines avec qui je décide de discuter. Elles ont la petite trentaine, bonjour.
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 C'est quoi vos prénoms?
Diane.
Morgane.
La femtech, non, j'en ai jamais entendu.
Ça me dit quelque chose, le mot, mais alors je ne sais pas ce qu'on met derrière.
Ah, ce qu'on met derrière, c'est la technologie au service de la santé des femmes, les start-up, les applis.
Moi, j'utilise une appli pour les règles, ouais, pour savoir quand est-ce que je vais les avoir.
Elle s'appelle comment ?
Flo.
Moi, c'est pareil, j'ai une appli pour le cycle. Après, j'ai plus le nom, mais c'est pas Flo. Okay. Bah, ça m'aide à suivre mon cycle, savoir quand est-ce que je vais avoir mes règles, la période prémenstruelle, etc. Et anticiper aussi les humeurs, les douleurs, etc. Et au moins, on sait pourquoi on est comme ça, quoi.
Se connaître mieux, comprendre son corps et anticiper, c'est le bilan que font ces deux amis. Sautons quelques générations maintenant. Bonjour, mesdames.
Bonjour.
C'est quoi vos prénoms ?
Jacqueline.
Marie-Paul.
Vous avez quel âge ?
Oh, une vingtaine d'années. 81.
La femtech.
Femtech.
Ou FM. Femtech.
Ah bon, femtech. Ou l'ensemble des technologies faisant la santé des femmes. Ménopause. Oh là. Je ne savais même pas qu'elles avaient des applications pour ça, pour tout vous dire. Alors, on en fait trop. On technicise trop.
Alors, je leur montre les applications pour les cycles menstruels, pour la ménopause, ou même Luna, par exemple, l'appli qui aide à savoir en quelques questions si une femme est concernée par l'endométriose.
Je trouve même que l'endométriose a pris des proportions quand même qui me paraissent bizarres. Il me semble qu'il n'y en avait pas tellement à notre époque. Hein.
Ou alors qu'on n'en parlait pas, au moins.
Bon, on n'en parlait pas, mais on en faisait... Si, non. Mais on n'en faisait pas tout un plat. On n'en parlait pas et on survivait.
Mais le but est de vivre, pas de survivre.
Non, mais on survivait.
On a bien vécu.
On a survécu.
Il y a certainement un petit écart générationnel pour Marie-Paul. Jacqueline me dit dans un sourire que de toute façon, ça fait longtemps que la boutique est fermée. Belle métaphore. Ce monsieur maintenant, sous sa casquette blanche et son manteau d'hiver, bonjour.
Bonjour.
Quel âge vous avez, vous ?
70 ans.
C'est quoi votre prénom ?
Gérald.
Gérald, vous faites quoi aujourd'hui ?
Ah bah, je suis retraité à mon âge.
C'est la belle vie.
Ah oui. Gérald, 70 ans, prénom de génération. Qu'en pense-t-il de tout ça ?
C'est vraiment, à notre génération, on ne parlait même pas de tout ça. Déjà, les règles, c'était un peu tabou, on n'en parlait pas trop, alors encore moins les détails. Et...
Là, c'est bien de le mettre sur le smartphone, d'avoir une aide pour son bien-être, pour sa santé ?
Absolument. Tout ce qui peut faire évoluer, notamment vis-à-vis des femmes qui ont souvent été oubliées, c'est très bien. Je suis tout à fait pour.
Julien, lui, il a la quarantaine, les cheveux en brosse, le manteau beige, il est speed. Il a un train à prendre. Est-ce que la femtech, c'est du business ou ça fait vraiment avancer les choses ?
Ben, j'ai envie de dire que peu importe, en fait. J'ai quand même l'impression que même si c'est pour faire du business, mais que ça va dans le bon sens, bah, tant mieux. Hein, si le business peut faire que la santé des femmes s'améliore, très bien. Alors après, je connais pas l'opinion des inventeurs ou des gens qui font ça. Est-ce qu'ils le font par pur objectif mercantile ? J'en sais rien. En tout cas, je trouve que tout ce qui va dans le sens de l'épanouissement de la femme, tant mieux. Mais si ça passe par un côté business, eh ben, il faudra que ça passe par un côté business. Et puis comme ça, c'est comme ça, tant mieux.
Ma dernière rencontre, c'est Elina, étudiante à Sciences Po. Elle me confie qu'elle est une ancienne escrimeuse de haut niveau. Sa copine ne veut pas me répondre. Alors Elina découvre...
La femtech. Bon, t'aurais pu venir. Je ne sais pas si j'ai une définition précise, mais tout simplement, je dirais la tech au féminin, portée par des femmes. Alors, j'ai Flo et une autre qui s'appelait Body Move. Je suivais aussi beaucoup les initiatives de sportives de mon sport, notamment Isaura Tibus, qui était une olympienne vachement engagée sur le sujet et qui travaillait avec des scientifiques et des acteurs du monde du sport pour que le corps des femmes soit plus intégré dans... les programmes de diète, voilà.
Avant de filer, elle me met en garde, et elle met en garde sur les dérives de la femtech et au fait de rester vigilante.
J'ai entendu parler du data leak. Potentiellement, ces entreprises peuvent vendre leurs bases de données de leurs utilisatrices à des sociétés privées qui pourraient utiliser ces informations à des fins commerciales. C'est des données qui sont assez sensibles, médicales même, qui touchent à l'intimité. Donc, dans ce cadre, avoir des régulations très strictes là-dessus, et comme notre carte vitale, elle contient des données hypersensibles, par exemple, et quand on va chez le médecin, il fait pas n'importe quoi avec, bah, ça devrait être pareil pour tout ce qui est technologie et...
FM tech,
voilà.
En 2024, la santé, l'intimité, le bien-être sexuel des femmes passent aussi par la tech. Alors bravo aux startups qui se sont attaquées à ces sujets encore tabous et trop longtemps exclus de la recherche clinique, comme un pansement numérique.
C'est fou comme Manon lève toujours les yeux au ciel à la fin de chacune.
Non, ça s'appelle la jalousie.
Oui, ça doit être ça, vous êtes jalouse de ses chutes.
Mais c'est parce que vous me regardez à chaque fois, Mathieu, oui, avec un air moqueur.
C'est vrai que je vous tends la perche, vous ne voyez pas quand je me tourne.
Par moment, j'applaudis.
C'est dégueulasse. Juliette Moreau, je rappelle que vous êtes à la tête de Femtech France. Alors, la Femtech, je crois qu'on est tous d'accord pour dire que c'est assez formidable, mais est-ce qu'elle est cependant suffisamment encadrée parce qu'il y a ce problème des données intimes? Le secret médical est un peu en danger avec les données qu'on rentre dans ces applis.
Alors, ça m'a fait réagir justement l'échange. Déjà, pas plus que sur les autres applis de données de santé. Donc là, on n'est pas sur un stade différent. En revanche, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a souvent ici cité Flo. Flo est une entreprise qui est américaine, qui du coup va être soumise à un droit sur la protection des données qui n'est pas le même que celui qu'on a en France versus Clou, qui pour le coup, lui, est soumis au droit, au RGPD, donc au droit européen. La manière
vous conseillez Clou, alors déjà.
Je ne conseille rien, parce que ce n'est peut-être pas mon rôle ici. Quoi. Mais en tout cas, je dis, à partir du moment où c'est une thématique qui nous intéresse et qui nous inquiète, et à partir du moment où, clairement, on rentre sa donnée dans une appli, il faut commencer par lire ce qui est parfois un petit peu fatigant, mais les politiques de confidentialité, pour savoir exactement où sont hébergées les données.
Parce que ça peut être dangereux, notamment, je pense, dans des pays où les femmes n'ont plus accès à l'avortement. En fait, avec ce type de données, ça peut être très compliqué.
C'est devenu un grand enjeu, en effet, en particulier aux États-Unis, où pour le coup, le secteur de la femtech est extrêmement développé. Mais j'ai envie de dire à l'inverse aussi, aux États-Unis, on a tout un secteur qui s'est développé aussi en opposition à ce qui pouvait être mis en place, en particulier contre le droit de l'avortement, avec les possibilités d'avoir toute une femtech qui permet d'avorter en envoyant des médicaments, donc avec toute une autorisation en fait, digitale.
Une sorte de résistance en fait.
Téléconsultation, ouais. Voilà. Donc après, la manière à laquelle les données sont gérées, c'est à la fois le rôle, évidemment, de l'entrepreneur et de l'entrepreneuse, mais c'est aussi le rôle de l'utilisatrice, en fait.
Lorsqu'on écoute Jacqueline et Marie-Paul, on sent quand même un léger décalage. Elles disent qu'elles ont très bien fait sans tout ça. Ça dit le tabou que ça a pu être à l'époque. Elle dit « on a survécu ».
Alors, moi, j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'aujourd'hui, on commence à s'intéresser aussi à la santé des femmes après 50 ans. Et on se rend compte aussi à quel point il y a un certain nombre de critères qui n'ont pas été pris en compte. Je pense par exemple à tout ce qui est prise en charge de l'ostéoporose, le diabète. Aujourd'hui, on en parle beaucoup en ce moment et c'est bien, mais les femmes meurent de risques cardiovasculaires et de démence parce que justement, on n'a pas étudié ces sujets-là. Donc, alors, c'est peut-être pas une application qui va résoudre le problème pour elles là, maintenant, mais clairement, la Femtech et tout ce qui peut être proposé en termes d'évolution technologique, l'objectif, c'est ça répondre aussi à ça. Après, on ne peut souffrir que ce qu'on connaît. Donc, voilà.
Et puis, la jeune Elina nous parle des applis de sport, Bodymove. Elle cite Isaora Tibus, escrimeuse, qui s'est investie auprès des scientifiques pour des programmes. Ça, vous étiez au courant de ça?
Ouais, et ça, c'est un super sujet. Tout à l'heure, je ne sais pas lequel d'entre vous, mais évoquer le fait que finalement, ce n'était pas si intéressant de ça, de savoir quand est-ce qu'on allait avoir ses règles, puisque de toute manière, ça arrivait. Ben, si. Parce que justement, de suivre son cycle, ça peut avoir des vrais impacts en termes de performance sportive. Et ça, il y a de plus en plus, en fait, de travaux qui sont faits dans ce sens-là, et en particulier une application qui permet de suivre son cycle et sa performance sportive.
Mais non. Est-ce que la Femtech, en un sens, ça aide pas aussi les hommes ?
Bien sûr, parce que des femmes qui vont bien, ça aide une société à aller bien.
Je pensais plus, par exemple, vu que, je sais pas, les hommes ont en général du mal à parler règles, par exemple, montrer un papa qui va montrer à sa fille via une application, ça peut en fait libérer un peu leurs paroles et les faire se sentir mieux.
Alors c'est clair que ça détabouise le sujet. J'ai bien aimé ce que pouvait dire Julien sur cette thématique-là. Et d'ailleurs, ça me permet de rebondir sur aussi le fait que, oui, bien sûr, c'est une économie. Après, ce qui est intéressant, c'est que c'est une économie, donc c'est une autre forme de décision. C'est-à-dire que c'est chaque consommatrice qui va choisir ce qu'elle souhaite ou ce qu'elle ne souhaite pas. Ce qui est un peu différent d'une subvention politique, par exemple, ou par un mécène. Donc c'est une autre manière aussi d'envisager ce sujet-là comme un sujet de société.
France Inter. Zoom Zoom Zen.
Jusqu'en 2012, il n'existait pas d'appli pour calculer son cycle menstruel, alors qu'il existait déjà 34 applis pour trouver une place de parking plus facilement. Normal, se garer à Paris, c'est infernal, surtout depuis Hidalgo, commenterait Cyril Lacarrière. Anormal, car à Paris, il suffit de prendre les transports en commun. Aurais-je tendance, évidemment, à nuancer.
Oui, bien sûr.
Et voilà
vous n'avez pas
pourquoi.
Pris le métro depuis 2003.
Et voilà, j'ai pris le métro.
Est-ce qu'il l'a
pas
déjà
plus tard,
pris
pas plus tard que jeudi dernier. Ouais. Et voilà pourquoi je vous propose un best-of des applis moins utiles que Clou, mais qui sont arrivées dans le store bien avant. Jouons au Zoom Zoom Test.
à la découverte aujourd'hui de tous ces problèmes que les hommes ont trouvé plus urgent de solutionner que la santé des femmes. Des applis éminemment disruptives qui ont certainement bouleversé la vie des visionnaires qui ont eu l'audace de les télécharger. Pour deviner la première d'entre elles, je vous propose une mise en situation. Le doux soleil de mai darde ses rayons sur la campagne vauclusienne. Cyril Lacarrière, ce bon multipère de famille, qui prétexte chaque année un séminaire France Inter dans le Luberon pour en réalité rendre visite à son deuxième foyer, ce qu'il appelle sa transhumance du cœur, roule sur la D943, excité à l'idée de retrouver les autres siens. Ils vont être si heureux de le voir, d'autant qu'il n'arrive pas les mains libres, hein, les mains vides, pour ses enfants du soleil, comme il les appelle. Il arrive toujours les bras chargés de cadeaux, pas d'iPhone ou de PS5, hein, nous parlons quand même de la pince de Ponto Cobo. Non, il ramène des fruits, au stand de la mer Pitaillou, au bord de la départementale. Tiens, voilà le Parigo. Oh, c'est pas Rungis ici. Vous n'allez pas renifler le cul des pastèques toute la journée. Oh, vous pouvez pas vous servir de votre iPhone comme tout le monde. Très belle imitation.
C'est bien, Mathieu, c'est chaud.
On fera pas d'émission sur la glottophobie, du coup.
D'après vous, comment Cyril va-t-il s'en sortir pour choisir un melon bien mûr?
Oula.
Il va demander à son appli Fruits d'analyser une photo de la queue de la pastèque. Il va tapoter la pastèque pour faire analyser le son produit par son appli Melon Matter. Ou il va appeler Quentin, qui s'y connaît en fruits bien mûrs.
Vous avez pas fini. Oh,
c'est allé très vite et je crois que vous êtes allé plus vite, Quentin.
Ouais, mais j'ai un peu mordu.
Il a mordu, mais il s'est plus vite. Réponse B. Ah oui, elle s'y connaît dans les internets, la mère Pitaillou. Grâce à Melon Metteur, plus d'hésitation embarrassante devant les cagettes à fruits, qui en plus vous mettent mal à l'aise, car elle vous rappelle le blouson Valentino Rossi de Quentin. Il vous suffit de toquer sur les cucurbitacées et l'appli vous dit lequel acheter. Une appli disponible depuis 2011.
Attendez, je comprends pas. On met une petite claque au...
Claqué.
Voilà.
Oui.
Ok.
Melon ou pastèque.
C'est juste
pour la pastèque, Quentin.
Ouais, melon, compris.
Melon ou pastèque.
Ça fait un bruit.
Et ça vous dit lequel est mûr, effectivement. Et c'est loin d'être l'appli la plus inutile, car l'homme a aussi inventé Send Me to Heaven. Une appli qui va réussir à décevoir à la fois Manon, qui pensait que c'était une innovation de la Femtech, destinée à enfin donner du sens au mode vibration de l'iPhone, et Pierre Courade, qui pensait que c'était une appli qui nous permettrait de se rapprocher de Dieu. Non, désolé de vous décevoir, Send Me to Heaven, c'est en fait une appli à la con pour mesurer la hauteur à laquelle on est capable de jeter son téléphone, non. Une appli à la con pour estimer la date de sa mort, ou une appli à la con pour estimer la date de la mort de son patron.
B.
Waouh. C.
Quentin, vous venez de vous trahir.
Je
venez de vous trahir. Et pour cette réponse, qui en plus est mauvaise, vous perdez un point.
Ah ouais,
un point de pénalité. Vous avez dit quoi, vous,
Manon? J'ai dit B.
C'était la réponse A.
Ah, bon, bah.
Quentin, qui a la fibre entrepreneuriale, le sait, les idées qui marchent sont celles qui répondent à un besoin. Or, quel besoin plus universel que de lancer son téléphone le plus loin possible et voir ensuite quelle hauteur on a réussi à atteindre. Je sais ce que vous dites en entendant ça, Quentin. Ma tasse Lucy Galou, c'était pas si con finalement. Mais personne n'a dit que c'était con, Quentin. Ne vous minez pas, croyant en vos rêves. C'est ce qu'a fait le créateur de l'application iNap at Work, disponible sur iPhone et Android. D'après vous, en quoi consiste cette appli élue appli de l'année par Cyril Lacarrière?
Qui l'a créée même.
iNap at Work permet la location express de matelas gonflables pour faire la sieste au bureau, la géolocalisation en temps réel des meilleurs canapés libres dans un rayon de 100 mètres.
Non mais non, on l'aurait déjà celle-là.
Ou l'émission de bruits de bureau tels que clics de souris, sons de clavier ou encore froissement de papier pour permettre à son utilisateur de se faire une petite sieste au bureau, ni vu ni connu.
C'est...
Oh oui, maintenant. Oui, c'est bien sûr, Cyril a été un des premiers à télécharger la version premium de iNap at Work. Depuis, l'illusion est parfaite. Qu'est-ce qu'il bosse entre 13h et 16h? C'est fou, il n'arrête pas, il tape tellement qu'on a l'impression que le doux sasseur va faire une demi-heure, mais non, il fait toujours une minute trente. Enfin, attention, top!
Ça dépend.
On termine avec une appli qui nous prouve qu'on dit nimpe depuis le début de cette émission et qu'au contraire, le bien-être des femmes et même leur plaisir est au cœur des préoccupations des génies de la tech. D'après vous, laquelle des applications suivantes existe vraiment? Want That App, l'appli qui t'apprend à secouer ton téléphone pour mieux secouer autre chose ensuite. Kiss My App, l'appli qui t'apprend à embrasser ton téléphone pour mieux embrasser ton partenaire.
Non.
Ou Lick This App, l'appli qui propose de lécher son téléphone pour mieux lécher autre chose.
Les trois. Je l'ai dit avant.
Vous aimeriez vivre dans ce monde. Ce n'est pas les trois.
Juste la dernière,
Quentin.
Elle est bien sale.
Lick That App.
Elle est sale, non?
Oh, elle est sale. Oui, c'est pas étonnant que ce soit vous qui l'ayez trouvé. Réponse C, vous ne rêvez pas. Lick This App vous propose d'exercer votre langue pour le sexe oral en léchant votre écran de téléphone. On se muscle l'organe en léchant son écran au travers d'exercices spécifiques, actionner un interrupteur pour le mouvement de bas en haut, tailler un crayon pour les mouvements circulaires ou encore faire rebondir un ballon. Si vous notez consciencieusement tout ce qui se dit dans le Zoom Zoom Test, vous savez qu'il y a en moyenne 7000 bactéries sur un écran de téléphone portable. Avec Lick This App, votre partenaire sera donc comblé, mais malade. Victoire de Quentin.
Mais quoi?
Ah bah...
N'importe quoi.
En revanche, est-ce que c'est pour
non,
ça
non.
Est-ce que c'est pour ça, Mathieu, est-ce que c'est pour ça que vous nettoyez votre petit smartphone avant
bon,
de faire
quand on fait votre blague là.
Exactement. Ben oui, évidemment, parce que avant, forcément, j'ai cette application et je l'utilise quotidiennement.
Très sale.
Zoom cet après-midi sur la Femtech, la vraie, celle qui marche et celle qui est utile, avec Juliette Moreau, présidente de Femtech France. Juliette, c'est quoi le profil des femmes qui téléchargent les applis Femtech? Vous avez des retours là-dessus?
C'est vrai que ça va être plus majoritairement des femmes qui vont aller entre 13 et 45 ans environ. On a un petit peu moins de téléchargements à partir de 45, mais ça reste. Après, évidemment, vos intervenantes de tout à l'heure, c'est une population qui est peut-être moins sensible à ce type d'outils.
Personne ne bosse là-dessus pour réussir à intégrer les...
Si, clairement. Ça fait partie, et en particulier, parce qu'il y a tout un enjeu aujourd'hui qui est d'inscrire tout ce qu'on propose dans des parcours de soins. Mmh. Et dans le parcours de soins, il y a tout un travail justement qui est nécessaire pour accompagner vers l'utilisation des applications ou du digital en général dans le parcours de soins. Et aussi les personnes qui ont peut-être moins de facilité à le faire.
Clairement, on en parle depuis tout à l'heure, il y a une utilité publique assez évidente à la Femtech. Est-ce que vous avez des aides de l'État ?
Alors, nous, à Femtech France, non. Après, il y a un certain nombre de startups qui, justement, commencent à être aidées, à avoir des subventions pour pouvoir se développer. Il n'en reste pas moins que c'est un secteur qui est encore un petit peu timide, en tout cas, en termes d'aide dans ce domaine-là. Et pourtant, oui, il y a un énorme potentiel.
Vous avez noué un partenariat avec la PHP. Qu'est-ce que vous allez développer ensemble ? Est-ce que vous avez le droit de nous en parler ?
Oui, bien sûr. Alors, la PHP, c'est l'assistance publique des hôpitaux de Paris, c'est le plus gros regroupement d'hôpitaux d'Europe, donc c'est assez grand, et ce qu'on est en train de travailler ensemble justement, c'est de permettre à différentes startups, ça fait très bien le lien avec ce que je viens de dire, de pouvoir tester dans un parcours de soins les innovations qu'elles proposent, voire expérimenter des solutions, donc c'est ce qu'on est en train de construire en fait.
Par exemple, quel type d'appli ?
Bah, typiquement, ça peut être, alors c'est pas obligatoirement que des applis, hein, ça peut être ce qu'on appelle des dispositifs médicaux, donc tester un dispositif médical qui accompagne des femmes pour avoir moins de déchirures du périnée, ça peut être tester, oui c'est un gros travail ça, justement mieux identifier des lésions sur des IRM, des lésions d'endométriose, et travailler sur des intelligences artificielles qui vont pouvoir bien identifier ça, mais pour ça on a besoin que les médecins donnent des données cliniques et accompagnent en fait la description de ce qui est fait.
On pourrait imaginer que la Femtech propose aussi des applis pour lutter contre le harcèlement, contre des violences faites aux femmes. Est-ce que ça rentre, parce qu'il y a des applications qui vont dans ce sens, est-ce que ça rentre dans le domaine de la Femtech ?
Alors ça rentre pas dans le domaine de la Femtech. D'accord. Parce qu'on est sur de la santé des femmes. Là, on est sur la femme et sa place dans la société et comment on la protège, donc c'est plus large. En revanche, on a tout un champ de la Femtech qui va plus intervenir sur... pour aider les femmes qui sont victimes de violences intrafamiliales. Et là, c'est plus un accompagnement qui relève du psychologique, pour le coup.
D'accord.
Est-ce que vous avez quelques coups de cœur à nous partager sur des entreprises Femtech, des innovations qui vous ont paru particulièrement judicieuses ?
Alors, je ne vais pas en citer, sinon je vais mettre à dos les 65 autres. en revanche, oui, on a des innovations que moi, je trouve passionnante. Hein. Une première qui est détecter des cancers du sein par les larmes.
Par les larmes.
Donc ça, c'est vraiment de la super inno. Mm-hmm. De l'IA, comme je le disais, qui permet... Enfin, de l'intelligence artificielle, pardon, qui permet d'aller beaucoup plus vite sur l'identification de lésions pelviennes et donc d'aller plus vite sur des diagnostics d'endométriose ou d'autres pathologies similaires. On a aussi, c'est ce que nous, on appelle dans le jargon start-up de la low-tech, hein, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas avec un niveau de technologie très fort, mais moi c'est mon gros coup de cœur. C'est une structure qui propose en fait des protection périodique, mais enroulé comme du papier toilette. Et du coup, on peut le placer dans n'importe quelle toilette et le changer aussi facilement, ce qui rend en fait beaucoup plus simple de lutter contre la précarité menstruelle dans des lieux publics et de changer beaucoup plus facilement. Donc c'est un champ où on a du très peu technique à du très grand technologique.
Vous écoutez France Inter, il est 16h44. Manon, je me tourne vers vous pour connaître l'autre personne à suivre aujourd'hui.
Je vous présente Sophie Braque de La Perrière. Elle a une quarantaine d'années, elle est française et elle a fondé la start-up de Femtech lyonnaise HealShape. C'est un projet de médecine régénérative qui développe des solutions de reconstruction mammaire pour les femmes ayant eu une ablation suite à un cancer. Ancienne diplômée d'HEC, Sophie Braque de La Perrière a passé 13 ans au sein de l'entreprise pharmaceutique Sanofi avant de décider de créer sa propre entreprise. Elle l'a fondée avec 5 autres personnes, toutes spécialisées dans leur domaine. Une ingénieure en biotechnologie, une docteure en thérapie cellulaire, un spécialiste de l'impression 3D pour la santé, un chirurgien plastique et un docteur en ingénierie tissulaire. Je cite les métiers de chacun car ça montre l'investissement que demande HealShape pour développer une prothèse unique au monde. En détail, c'est une bioprothèse imprimée en 3D à partir de matières naturelles et qui a la capacité de permettre une régénération des tissus de la patiente et de se résorber dans les mois suivant l'intervention pour ne laisser place qu'aux tissus d'origine. C'est un peu technique dit comme ça, mais en gros, Sophie Braque de La Perrière est partie du constat que seulement 14% des femmes ont des reconstructions du sein après une ablation. C'est peu, mais l'explication est logique. Ces chirurgies sont très invasives et peuvent être dures psychologiquement pour les femmes qui les subissent. Avec ce projet de nouvelle prothèse 100% naturelle, HealShape a réussi à attirer des investisseurs. L'entreprise a levé 6 millions d'euros en 2022 pour accélérer le développement de son produit. Alors pour le moment, la prothèse est encore en phase de test. Le démarrage sur Devreka n'a pas encore commencé. Sophie Braque de La Perrière dit qu'elle espère qu'elle pourra se lancer en 2026 et ensuite étendre sa technologie à d'autres applications médicales dans le futur. Grâce à cette innovation, HealShape s'inscrit comme une entreprise essentielle dans le domaine de la Femtech car elle a pour but d'améliorer la qualité de vie et l'image corporelle de milliers de femmes, millions de femmes touchées par le cancer du sein, tout en ouvrant la voie à des solutions régénératives dans d'autres domaines médicaux.
Merci beaucoup Manon. Juliette Moreau, dans cette notion de Femtech, il y a tech. La tech, c'est souvent une notion, on voit ça assez, de manière assez légère, on pense aux applis et tout ça, mais la Femtech, essentiellement, j'ai l'impression, d'après ce que je comprends, l'essentiel c'est médical, les innovations médicales,
c'est
on est sur du lourd.
Principalement des innovations médicales, après je l'évoquais tout à l'heure, on peut avoir quelque chose qui est peut-être moins technologique.
Oui, oui.
Je pense que on sera toutes les femmes autour de la table d'accord pour dire que la culotte menstruelle est une fantastique innovation et c'est de la Femtech. On n'est pas dans du super méga tech, mais voilà, et oui, on est, je pense que plus que tech, il y a beaucoup de science en fait derrière ce qui est proposé quand on est dans le champ en effet médical.
Quentin. Vous êtes à la tête de Femtech France. Est-ce que c'est des startups à Paris ou est-ce que ça se développe aussi en région?
Ah non, on a des startups HealShape, que Cité Manon fait partie de Femtech France.
C'est des startups. C'est pas un exemple.
C'est des startups partout en France. Oui, tout à fait.
France Inter. Zoom, zoom, zoom. Mathieu Noël.
C'est à lui qu'on a donc confié la mission la plus stratégique, la plus importante de Zoom Zoom Zen, organiser notre dîner de Noël. Pour l'instant, il n'a pas encore eu l'illumination et comme la date du 19 décembre approche à grands pas, il est très probable qu'on finisse tous dans un restaurant d'altitude à la Mongie, dans lequel son cousin, Jean-Louis Courade, président du ski club pyrénéen, nous fera 20% sur l'addition et offrira même peut-être, qui sait, les pousses à Pierre. Bonjour Pierre Courade.
Bonne idée, très bonne idée. Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Même si vous consacrez désormais l'essentiel de vos journées à l'organisation de ce dîner, vous assurez toujours le petit carnet de Zoom Zoom Zen, tout ce qu'on s'est dit résumé en une minute chrono.
Et aujourd'hui, la Femtech, les nouvelles technologies au service des femmes et plus particulièrement sur leur santé. On aurait pu parler d'un marché investi depuis longtemps par des investisseurs, tant le potentiel économique est énorme, 130 milliards de dollars estimés d'ici 2030. Eh bien non, aussi étonnant que cela puisse paraître, la Femtech, c'est un truc de femme, alors c'est délaissé par le machisme ambiant de la tech. C'est en creux ce que l'on comprend du discours de Juliette Moreau, notre invitée, la présidente de Femtech France, qui représente les startups du secteur. 90% sont fondés par des femmes, mais là encore, ça ne suffit pas. Notre invitée rappelle que même dans la Femtech, les investisseurs privilégieront les innovations portées par des hommes. On a d'ailleurs appris que dans le début de l'émission que la tech a été construite par les hommes pour les hommes, confère la taille de l'iPhone. Et en médecine, les médicaments sont encore testés par un ratio d'hommes plus important que les femmes. Pourtant, la santé des femmes n'est pas la même que celle des hommes. Il y a des problématiques propres, d'où l'idée d'y répondre. Les applis de suivi des cycles menstruels sont particulièrement prisées, mais aussi celles sur la dépression ou sur les troubles alimentaires. Mais la Femtech, c'est aussi des objets connectés, des services innovant à l'écoute des femmes sur l'endométriose par exemple. L'avenir des femmes dans la tech, c'est comme dans tous les domaines, ce sont donc les femmes elles-mêmes.
Merci beaucoup Pierre, et on avance sur le resto ou pas du tout?
On peut avancer, ouais, mais la mangie c'est une très bonne idée.
Non, d'accord, d'accord, avançons sur autre chose.
C'est à côté, hein.
Merci Pierre. Marine Léonardi, vous trouvez que la Femtech c'est très utile?
Bah oui, moi ça m'aurait bien aidé à l'époque où j'étais en école de commerce. Vous avez été géolocalisé à 4h du matin dans les bras d'un DJ, n'oubliez pas votre pilule. Message auquel j'aurais bien entendu répondu, pas d'inquiétude, on a utilisé l'autre trou. Oh. Et on salue à ce passage ma belle-mère Brigitte qui m'a promis d'écouter ma chronique ce lundi entre deux parties de golf. Je trouve ça... Juliette Moreau qui ne me connaît pas encore et qui est sidérée.
Alors, je découvre.
Je trouve ça génial, le progrès au service de la santé des femmes. Enfin, santé, parfois c'est même pour la survie des femmes. Des applications permettent par exemple de partir à la recherche d'une consoeur portée disparue. C'est sûr que bon, tu demandes à un homme de chercher une femme sachant qu'il ne retrouve déjà pas ses clés. Bon, et puis quand il la retrouve, t'es jamais à l'abri qu'il la viole. C'est donc compliqué. Perso, si on demande à mon mari de retrouver mon corps dans le bois de Boulogne, bah, il est capable de se lancer dans un footing, hein, ou de répondre « je suis pas dispo, vous avez essayé de joindre ma femme ». Alors qu'une mère de famille, mais c'est un chien truffier. On peut te retrouver une micro-chaussure de Barbie planquée sous le canapé. Alors un être humain. On sent bien d'ailleurs que l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès a été confiée à des hommes. Nous, on a un groupe WhatsApp de copines, les Catins Cato du 92. Xavier, on l'a aperçu 34 fois en 5 ans. Il y en a même une qui a couché avec. Il n'existe d'ailleurs pas encore d'application de ce type accessible à nos homologues masculins, hein, ce qui les agace beaucoup. Nous aussi, on voudrait être protégés de nous-mêmes. Je suis curieuse de voir ce qu'ils posteraient sur l'appli, franchement. Au secours, ma femme cuisine moins bien que ma mère. Venez me secourir au 43 rue Lamarque. Hâte que l'appli Masculinity voit le jour, vraiment. Et de toute façon, bon, elle existe déjà. Hein, ça s'appelle 80% des hommes blancs de plus de 60 ans sur Facebook. Il y a quand même un gros mais avec toutes ces applis connectées, c'est qu'il y a toujours un risque que vos données filent chez Meta, Google, etc., qui ne sont pas hyper réputées pour respecter l'intimité. Il n'y a qu'à voir les photos que Facebook me pousse de mon ex avec la petite phrase « Marine, vos souvenirs d'il y a 10 ans !» Alors bon, quand tu t'appelles Cyril Lacarrière ou Mathieu Noël, bah, il y a 10 ans, ils avaient 43 ans, donc ça va encore. Mais moi, il y a 10 ans, j'avais 15 ans et des poussières. Donc autant poussière, vous dire que ce genre de message, tu scrolles en bas avec la peur au ventre. Hein. 9 fois sur 10, tu tombes sur une image de toi où t'étais Yvan Ekès avec un mec qui mettait de l'eyeliner. T'es là, bon bah merci, mais non merci Facebook. Si j'avais voulu me souvenir d'Anatole Dupuis et de ma frange rideau bicolore, je me serais pas mise en blackout à cette soirée. Ces nouvelles applications de la Femtech permettent également de combler de grosses disparités sur le plan médical, puisque les femmes se soignent moins. Enfin, la question est peut-être mal posée. Ne serait-ce pas plutôt les hommes qui se soignent trop? Moi, j'ai quand même vu mon mari entamer une chimio pour une angine blanche. Bon. Mais c'est vrai qu'il y a de l'errance médicale chez les femmes. J'ai une amie qui a souffert d'endométriose pendant 8 ans jusqu'à ce que son gynéco, un homme de 63 ans, se décide à la diagnostiquer énorme casse-couille. Maintenant, les entreprises s'allient même à la Femtech pour proposer aux femmes de congeler leurs ovocytes, par exemple. C'est le nouvel argument baby-foot, voilà. Venez bosser chez nous, c'est open smoothie et eux congelés. Comme ça, le jour où tu vas voir ton boss à 42 ans en mode « j'en ai marre d'être payé 30% de moins que les hommes, Gérard », il pourra te répondre « ce serait quand même con, Nathalie, que le frigo 12B43Z soit débranché par accident cette nuit ». Comme quoi, dans la vie, c'est comme sur les applis, ce n'est pas très prudent de mettre tous ses œufs dans le même panier.
Merci beaucoup, Marine Léonardi, et j'ai une pensée toujours émue pour votre mari. Une angine blanche, c'est très grave. Vous avez raison de faire attention. On vous retrouve la semaine prochaine dans Zoom Zoom Zen et en tournée dans toute la France avec votre spectacle Mauvaise Graine. Toutes les dates et billetteries pour 2025 sur marineleonardi.com. Merci Juliette Moreau, présidente de Femtech France, de nous avoir permis de comprendre ce qu'était la Femtech.
Zoom Zoom Zen.